Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Premier souvenir. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Et moi, j'étais dans la petite division. Nous étions entre 3 ou 4 petits au milieu d'une classe de grands. Nos bureaux étaient de vieux bureaux en bois sale qui s'ouvraient par-dessus. Je m'assis dans un bureau que l'on m'indiqua. Ma mère m'avait acheté un cartable marron en carton bouilli qui se déchirait facilement. Un plumier avait tout ce qu'il fallait. Une boîte, un compas, des règles, une ardoise et des cahiers. Je devais avoir aussi une blouse. Une fois assis, 3 élèves plus grands que moi vinrent vers moi. Ils voulurent que je leur montre ce que j'avais. Je le fis avec bonne grâce. Ils se mirent à rire et en riant, ils cassèrent mes affaires. Puis partirent. J'étais suffoqué et ne savais que faire. Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir, car la maîtresse commença à poser des questions. Première question avait été quelque chose en ce goût. 1 moins 1 égale. Je lui dis rien. Elle me dit non, 0. Je restais dépité. Ce qui s'était passé le premier jour me referma sur moi-même et me rendit plus timide. Mes affaires cassées, le rire de mes camarades, la question posée, j'avais l'impression d'être dans un monde qui n'était pas le mien. Pourtant, j'étais parti avec de bonnes intentions. Je me mis à avoir peur des autres et honte de ce que j'étais.
Je suis Richard Cœur de Lion, l'orgueil de la chrétienté. Je vais te bouter hors de Jérusalem.
Très vite, dans les récréations, ma timidité amusait les autres et l'on me mit à part. On cherchait même à me faire de mauvaises farces, telles me faire manger un bonbon que j'avais vu qu'ils avaient trempé dans l'urine. On me prenait ma casquette que ma mère m'avait tricotée, la jetait en l'air, piétinait. Elle avait une visière renforcée en métal noir et se tordait. L'on me tirait par les vêtements, déchirait ou arrachait les boutons, me faisait tomber. La cour était sale et pas goudronnée. J'arrivais à la maison dans un état pas possible. La mère me menait tout de suite dans la salle de bain. Elle me faisait des réprimandes. Mais je n'osais pas lui dire que ce n'était pas en jouant, mais que c'était mes camarades qui me jetaient à terre. J'avais honte de cela. Et pourtant, ce n'était pas de ma faute. Je m'enfermais sur moi-même et apprenais à cacher à mes parents. J'apprenais à cacher ma vie à mes parents. Alors, je m'isolais dans les récréations, restais près du surveillant qui me disait d'aller jouer. La vie scolaire était devenue un enfer pour moi. Pourquoi me faisait-on des misères ? À cette époque que je devins somnambule. Le soir, je me couchais trop tôt, de peur de ne pouvoir me lever à l'heure le matin. Dans la nuit, je faisais des rêves qui me terrifiaient. Par exemple, que j'étais à la fenêtre. Les vitres devenaient brûlantes. Il y avait le feu. Alors je paniquais, sautais à la fenêtre et faisais des efforts surhumains pour ne pas descendre et m'écraser. J'essayais de voler. Je me réveillais en sueur dans mon lit, avec mes parents autour de moi. Impossible de leur dire ce que j'avais rêvé. Eux me disaient que j'avais couru en rêvant, en poussant de grands cris. Je ne me souvenais de rien. Je faisais toujours pied au lit. Mais l'envie ne me réveillait plus. Ma mère était obligée de me réveiller bien avant l'heure pour me laver. Me changer, me parfumer. Elle me faisait des réprimandes. Mais j'étais comme dans un rêve, effarouché, sans pouvoir réagir. Ce qui faisait que j'avais droit à une douche le matin pour le pipi et le soir à cause de mes camarades qui me jetaient à terre. L'école me terrifiait, la maison aussi, la peur de la nuit, de faire des cauchemars, le pipi au lit, les mauvaises notes, les réprimandes. Au milieu de tout cela, je ne savais plus où j'en étais. Je devenais idiot, je ne devais plus parler, jouer, apprendre. Parce qu'à l'école, j'avais l'impression qu'on me prenait pour un fou, et chaque fois que l'on m'interrogeait, je me sentais jugé. Mes notes étaient déplorables. De temps en temps, je me souvenais du plaisir que j'avais eu avec mon zizi. Et comme je l'avais eu, alors, pour trouver un peu de réconfort, je recommençais mes mouvements avec mes jambes dans mon lit ou assis à table. Étant petit, et avant d'aller à l'école Saint-Michel, ma mère m'avait parlé de mon petit Jésus et de mon ange gardien, etc. J'y avais cru sans peine. Mais dès que je suis entré à Saint-Michel, avec l'ambiance que j'avais, tout se mélangeait, religion et mes brimades. Puisque les brimades se faisaient dans une maison de Dieu, puisqu'à chaque nouvelle étude, nous avions la prière.
Tout le monde a compris ?
Oui, monsieur !
Pour aider les menus du mal.
Le catéchisme, chaque matin.
Aujourd'hui, Saint-Siméon Stylite. Saint-Siméon Stylite avait 13 ans et gardait les moutons de son père quand il entendit ce verset de l'Évangile. Malheur à vous qui riez à présent, car le jour viendra où vous pleurerez. Il quitta ses parents, devint ermite et vécut 30 années sur une colonne. Il s'y tenait debout, sans abri, absorbé dans une prière quasi continuelle.
Et la messe tous les vendredis.
En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas de vie en vous. Qui mange ma chair.
Michel, aidez-moi, vite.
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson.
On a rien à bouffer, on crève de froid. Et il faut être à jeun pour communier. Quelle boîte.
Tu veux communier?
Je suis pas allé, je suis comme toi.
Et vous, la messe tous les vendredis. Et il y avait aussi cette chose horrible, la confession. Ce qui fait que cette atmosphère religieuse et de réprimande me rendait malheureux et me devenait difficile la croyance religieuse et me fit perdre toute ma pureté. Les réprimandes que l'on faisait subir, il y avait trouvé autre chose. Les élèves tout entiers se réunissaient dans un coin du préau qui était désinfecté pour ne pas être vu. Et là, ils m'amenaient moi et un autre camarade de mon âge. Ils nous mettaient au milieu du groupe. Nous avions très peur, entourés de tous ces grands. Ils nous demandaient de sortir notre zizi. Moi, je paniquais et ne voulais pas le faire. Personne ne m'avait dit que ça ne se faisait pas de montrer cette chose, mais instinctivement je sentais que c'était interdit. Mon camarade de port le sortait de sa braguette, alors les autres venaient le lui tirer. Ensuite il venait vers moi et me le demandait. J'avais si peur que j'obéissais. Une fois sorti, il me tirait dessus. C'était très désagréable. Je ne sentais rien. Les autres riaient comme des imbéciles. Une fois qu'ils en avaient assez, ils se dispersaient. Mais quelquefois, une religieuse du haut des escaliers ouvrait la fenêtre et tapait des mains pour les faire disperser. il est interdit de se grouper en dehors de la cour. Il n'y avait pas que dans la cour où on m'ennuyait, dans la classe aussi. Avant l'heure, lorsque la maîtresse était absente, on venait à mon banc et me demandait de me montrer mon zizi. On me proposait même des cadeaux. Je ne comprenais pas le plaisir qu'il pouvait avoir à me proposer cela. Je savais que c'était pas bien, mais je ne faisais aucun parallèle au plaisir que j'avais avec mon zizi et leur demande. Les garçons avaient d'autres jeux. Par exemple, celui d'aller jeter un papier dans la corbeille à papier qui est juste en dessous de la maîtresse pour pouvoir voir sous de ses jupes. Ceci me faisait beaucoup rire, mais je ne cherchais pas à savoir ce qu'il voyait. Je fis ma première communion. Le prêtre avait dit à ma mère, « Pour lui, c'est spécial. On lui permet de la faire, malgré son retard scolaire. » Je me souvins qu'en sortant d'une des réunions où l'on nous avait appris à avaler une hostie, un de mes camarades s'est mis à la cracher sur ma veste. Donc, j'avais fait ma première communion. Il fallait que je me confessasse toutes les semaines. Nous y allions par classe. Comprenant jamais ce que me disait le confesseur, alors, pour ne pas avoir l'air idiot, je disais que j'avais menti ou été gourmand. Il y avait en face de l'école une petite roue où il y avait un marchand de bonbons, billes et bandes dessinées. Ce genre de marchand que l'on trouve à proximité de chaque école. Tous allaient acheter des marchandises. Moi non, je n'avais pas d'argent. J'aurais bien pu en demander à mes parents pour acheter quelques petites choses. Mais je ne sais pourquoi et comment je le fis. Je volais quelques pièces pour acheter des petites friandises. Dans le magasin, je me trouvais indécis, ne sachant ni le prix des malabars, ni bien compter. Je ne savais pas si j'en avais assez. Je dis ce que je voulais et donnai toutes les pièces au marchand qui me servit. Ce fut ma première faute, mon premier vrai péché. Là, je sus ce que je devais dire à mon confesseur. J'étais 30 ans en retard pour mon âge. Je n'apprenais rien, ne comprenais rien. À 8 ans, je ne savais toujours pas lire. Mes parents devaient être très déçus par moi. Je n'allais pas à l'école seul. Je faisais le trajet avec deux camarades, beaucoup plus grands que moi, et qui étaient dans la classe des grands. Sur le chemin de l'école, ils se parlaient entre eux, mais ne me parlaient pas. Un jour, ils apprirent par un de ma classe que je ne savais toujours pas lire. Alors ce fut pour moi la torture. J'avais honte de ne savoir pas lire. Mais je n'y pouvais rien. J'étais incapable de faire un effort pour apprendre. Les deux jeunes, pour savoir si c'était vrai, me posaient des questions et me demandaient de lire les plaques des boîtes aux lettres. Mais moi, je rougissais et ne disais rien. Le trajet pour aller à l'école devenait insupportable. Au bout d'un moment, lorsqu'ils s'étaient rendus compte que j'étais à moitié idiot, ils me laissèrent tranquille. Moi, je marchais devant, eux derrière à distance. Quelquefois, je les écoutais. Une fois, un des deux garçons dit qu'il aurait aimé se marier avec sa mère. Cette phrase me fit une sensation étrange. Sur le chemin de l'école, ils achetaient des cigarettes qu'ils fumaient en cachette. Je me souviens que leurs cigarettes avaient un goût très agréable. Ils me disaient de ne pas les dénoncer. Je leur disais que je ne le ferais pas. Ils avaient confiance en moi. Un jour, en arrivant à l'école, tous les élèves étaient en effervescence. Ils avaient été voir avec leurs parents le film « Papa, maman, la bonne et moi », ce qui allait devenir une chanson « Papa, maman, la bonne et moi » se lave les pieds tous les 6 mois. C'était au Comédia que le film passait. Le cinéma n'était pas très loin de l'école. Moi, j'aurais aimé aller voir ce film, mais nous n'allions pas au cinéma et nous n'y allions que très rarement. Je voyais avec envie mes camarades y aller toutes les semaines. Chez nous, c'était mon père qui voulait que l'on aille voir tel ou tel film, et il les choisissait pour plaire à ma mère.
Je vais devoir vous le répéter combien de fois, Monsieur Cabane, après l'étude,
vous devriez aller... Depuis l'âge de 6 ans, j'étais amoureux du cinéma. En feuilletant les pages de Manu France, mon corps battait très fort lorsque je voyais un petit projecteur de cinéma pour enfants en manivelle. Sur le chemin de l'école, il y avait aussi un magasin qui vendait ce genre d'appareil et le mettait en vitrine. Malheureusement, je n'osais pas dire à mes parents que je voulais cet appareil. Pour Noël, chaque fois qu'il me demandait ce que je voulais, je n'osais rien dire, ce qui me rendait malade, et continuais à rêver chaque jour que je possédais cet appareil. Très vite, en plus de ce projecteur, je rêvais d'une caméra pour faire des films. Je rêvais que plus tard je serais cinéaste, et je m'imaginais des histoires à tourner. Ces rêves de cinéma me sortaient un peu de cette vie auquel j'étais enfermé. Je ne jouais plus, je n'avais pas d'amis, j'avais peur de tout à l'école et chez mes parents aussi. Je n'avais plus d'enfance, j'étais dans un cauchemar. Il m'arrivait souvent de prendre des crises de foie, des maux de tête terribles au lever et des envies de vomir. qui vous tenait au lit toute la journée. Ma mère croyait que c'était dû à ce que je mangeais. Alors, elle me mit au régime. Adieu le chocolat. Un jour, ma mère tomba gravement malade. Mon père, qui travaillait, ne pouvait pas me garder. Alors, il demanda l'aide à l'assistante sociale. Elle lui indiqua une maison d'enfants qui prenait les enfants pour un mois ou deux pour aider les parents. Cette maison se trouvait dans le plateau de la Croix-Rousse, rue Chazière. C'était au fond d'un parc avec vue sur la Saône. Jolie maison de fin de siècle, rénovée. On peut dire que c'était bien, mais je n'y étais pas heureux. Il y avait de belles chambres à deux lits. Le matin, visite médicale, tous les matins, et l'après-midi, classe.
Nous prenons des assemblées, et notre lassitude et notre force...
Quentin, vous êtes mûr pour la comédie française. Pouvez-vous nous rappeler qui était Charles Péguy?
Il est mort, il a été tué à la guerre de 14.
Vous commencez par la fin.
Sa mère était rempailleuse.
Jeux et repas.
Envoyez-moi le panier.
Pendant les repas, je jetais ma viande à terre et mangeais très peu. Mon camarade ne m'aimait pas. Il mettait dans mon verre de la mie de pain.
Merci,
Téchy. Dehors, je ne jouais pas. Restais des heures sans rien faire. Un jour, je vis un insecte, lequel je ne sais, il était mort. Je l'enterrais et restais toute la récréation près de cette tombe. Pourquoi, je ne savais, mais il fallait que je le fasse. Un jour, des enfants jouaient devant ma tombe. Je pris peur qu'ils la piétinent. Alors, je déterrais mon insecte en cachette et le remettais en terre un peu plus loin. Un jour, des camarades regardaient la Saône. Une péniche coulait au fil de l'eau. L'un des enfants dit « C'est là-dedans que se trouvent les enfants qui vont naître ». Le soir, de temps en temps, nous avions des soirées de diapositives. C'est grâce à elles que je connus Tintin et Milou. À 16 ans, c'était le goûter. Comme ma mère avait dit que j'étais au régime, j'avais le droit à la place de chocolat à deux pâtes de fruits. Je me mis à détester ces pâtes de fruits. Nous avions des lits en fer, comme à l'hôpital. Et une nuit, je me coinçais la tête dans les barreaux. Au petit matin, après beaucoup d'efforts et peur, je réussis à m'en sortir. Comme le carnaval approchait, on nous avait fait faire des costumes. Je devais être habillé en page. Tout en jaune, culotte bouffante et petit chapeau. Malheureusement, le jour du carnaval, je dus m'aliter à cause de crise de foie. Tous les soirs, l'on nous douchait. Nous avions une cabine individuelle qui ne fermait pas et les femmes de service nous savonnaient. Un soir, que j'étais sous la douche, la femme dut me laisser. Alors que j'avais du savon plein les yeux, un camarade vint dans ma douche et me tira le zizi, mais tellement fort que cela me fit mal. J'étais très chaste à cette époque. Même lorsque je voyais mes camarades nus, cela ne me faisait rien. Et je n'avais pas vraiment honte de ma nudité, mais seulement de mes formes, de mes vilaines formes. Je me trouvais très laid. Après Chazère, je retournais à l'école, dépaysé, mais plus ouvert. L'école me paraissait moins grande. Quelquefois, un prêtre nous appelait chez lui et nous passait des films. Ils étaient muets et montraient la vie d'une communauté séminaire. Il y avait aussi quelques vieux films muets, comiques. Mais les prêtres, dans l'ensemble, étaient discrets et on ne les voyait presque jamais. Retour, je retrouvais mes nuits, mes somnambulismes, mes crises de foie et je faisais toujours pipi au lit. À Chazière, je ne le faisais pas. Je me masturbais de plus en plus belle, pour rien, juste pour le plaisir et toujours de la même façon. Ma mère était toujours fatiguée et pour la distraire, comme elle ne pouvait pas sortir, mon père nous offrit la télévision, chose pour cette époque très rare. C'était un énorme appareil dans une boîte en bois, comme un meuble. L'écran était presque ovale, et pour sa sécurité, il y avait une glace devant. Les boutons étaient ronds et se tournaient, un pour le son, un pour l'image. À l'intérieur, il y avait plusieurs sortes de lampes, comme dans un vieux poste de radio. On le mettait en route, le son venait. Puis, l'image. Si l'on voulait, on pouvait voir que le son. On pouvait avoir que le son. Les émissions, ce n'était que quelques heures par jour. La journée, il y avait des petits films très courts pour les réparateurs et régleurs. Toujours les mêmes films ou la mire. La première fois que j'ai vu la télévision, elle ne marchait que le lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche, et seulement quelques heures. Le lundi, mardi à 18h, le jeudi, samedi et dimanche à 17h. Les images étaient en 850 lignes et de meilleure qualité que maintenant, mais seulement en noir et blanc. Ma mère fut enchantée d'avoir la télévision. Le premier soir que je vis à la télévision fut une pièce, Le Menteur, d'après je ne sais plus qui. Les actualités enchantèrent ma mère. Un dimanche, je vis l'éternel retour. Ce fut une révélation pour moi. J'appris ce que c'était qu'aimer. J'avais une peur bleue du nain. Et lorsqu'il bure le filtre, je croyais vraiment que c'était du poison. J'en marais blessé, au couteau dans le bar, me fit un effet extraordinaire. Et la fin du film me mit dans tous mes états. Je n'étais plus le même. J'avais compris ce que c'était qu'aimer. Le deuxième film avait été Désiré Clary de Sacha Guitry. Ce film m'intéressa moins et je sentais qu'il n'était pas pour les enfants. Ma mère fut déçue car elle avait lu le livre. Bien sûr, en plus des films, il y avait les dramatiques en direct dans des décors de télévision qui étaient formidables. Et plus tard, guitare, Claude Santelli, qui a été pour moi un peu comme un professeur, pour ainsi dire. Avec ses émissions « Livre mon ami » et « Le théâtre de la jeunesse », il m'a fait connaître et aimer des tas d'auteurs. C'est grâce à lui si j'ai tant aimé lire. Avoir la télévision chez soi, ce n'était pas bien, surtout si l'on avait une famille. C'était immoral. Il fallait entendre les gens à cette époque, dans les conseils de classe. Ma mère, une fois, a été tellement outrée de ce qui se disait qu'elle a été obligée de quitter la Réunion. Pourtant, les émissions que l'on diffusait à cette époque étaient très puritaines. Le carré blanc n'existait pas, mais il n'y en avait pas besoin. À l'école, il y avait chaque après-midi, au goûter, distribution de bouteilles de lait chocolaté et d'un paquet de gâteaux. Ceci se faisait dans toutes les écoles de France. C'était dû parce que les enfants n'étaient pas suffisamment nourris.
Je rappelle à ceux qui ont des provisions personnelles qu'ils doivent les partager avec leurs camarades.
Alors, Madame Perrin, vous mettez...
Qui veut du saucisson?
Moi.
C'est du cheval, je vous préviens.
Merci. Faut que je mange, je suis de l'anémie.
Et nous alors, t'as entendu le père Jean?
Oui. T'as pas assez pour tout le monde, sans qu'à mon honneur, aux parents.
Il n'y a plus qu'un morceau.
Sers-toi.
Merci, t'es chic.
Je ne sais pourquoi, mais mes parents décidèrent de me changer d'école. J'avais 9 ans, je ne savais toujours pas lire, l'école Saint-Michel était payante. Mes parents s'étaient peut-être rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette école. On me mit à l'école laïque du Grand Trou, route de Vienne. Là, j'étais surpris par la grandeur de l'école, le nombre d'élèves. Je me sentais perdu. On me mit au cours préparatoire première année. J'avais honte, car j'étais beaucoup plus grand que les autres, et il n'y avait pas de division. La classe claire, les bureaux modernes, livres gratuits, crayons, ardoises et cahiers aussi. Tout cela me changeait. L'institutrice n'était pas très sympathique et ne m'aimait pas, mais elle connaissait son métier.
Un mot à cul, ça va le réchauffer.
bizarre première année, j'apprends à lire d'un coup. Mais, à cette première année, je ne suis pas fait de camarade. J'étais depuis demi-pensionnaire. J'allais à la cantine, qui était une vaste pièce avec d'immenses tables et un plafond très haut. La nourriture était infecte. On nous servait la salade directement du cajot et une personne nous mettait la sauce dans notre assiette. La viande était noire et filateuse avec un goût infect. Il nous arrivait d'avoir comme dessert un morceau de pain d'épices dur comme du bois. Après les cours, je restais à la garderie du soir pour faire mes devoirs du lendemain. Le jeudi après-midi, ma mère m'avait inscrit à la garderie. Durant l'automne et l'hiver, il y avait séance de cinéma. Dans un immense préau fermé, il y avait sur le mur un immense écran, comme dans les cinémas, et l'on passait des documentaires, puis le grand film en 35 mm. Les films étaient des films normaux de cinéma. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Premier souvenir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.